Eh bien, bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Je remercie aussi Fred et Julie de Lady Hotel de nous recevoir dans ce lieu magnifique. Il va faire un petit peu chaud, mais finalement c'est pas mal après la journée d'hier. On est prêt à emmagasiner un peu de chaleur. Et puis, donc juste deux mots sur les rencontres naturistes, parce que vous ne connaissez peut-être pas tous le principe. Ça fait plusieurs années qu'on essaye de parler de naturisme au Levant, parce qu'on vit le naturisme au quotidien. Mais on fait aussi beaucoup de la fête, on s'amuse beaucoup, mais c'est pas mal aussi de se pencher sur la question du naturisme et de voir ses implications, ses conséquences, sa philosophie et comment elle peut s'appliquer dans tous les domaines du quotidien, aussi bien de la sexualité, de l'estime de soi. Et puis, on a parlé aussi l'année dernière avec un autre intervenant juriste du droit à la nudité dans l'espace public et l'espace privé. On a vu que c'était de plus en plus problématique. Et puis, notamment, l'année dernière, Lionel était présent, pas comme intervenant, mais on a abordé la question de la décroissance, naturisme et décroissance. Et en arrivant à la conclusion qu'il fallait absolument qu'on fasse un débat autour du Levant et de l'avenir du Levant, et finalement quelle pouvait être la relation entre le naturisme et l'environnement, parce qu'on vit nu dans un environnement, bien sûr, et notre relation à l'environnement, on va le voir, est quand même très différente de celle qu'on peut avoir sur le continent, pas que sur le continent, mais dans un espace textile. Et l'idée, c'est justement aujourd'hui de creuser avec nos invités cette question du Levant et de l'évolution du Levant et de l'environnement au Levant. Et qu'est-ce qu'on finalement, comment on peut envisager ce petit bout d'île fragile, on va le voir, comme ça, qui est encore un petit peu préservé, mais qui est aussi en danger. Et comment justement le naturisme peut être un outil peut-être pour nous aider à le sauver. En tout cas, on va voir à quel point il est en danger. Donc pour parler de cette question, je me suis dit que le meilleur interlocuteur, c'était notre président. Alors, sachant que notre président est un Ilien comme nous tous, résident au Levant, mais il est bénévole et candidat à une lourde tâche qui est d'administrer le domaine, puisqu'on est une copropriété, en fait, à peu près 250 copropriétaires. Donc, c'est quand même un sacré boulot, c'est quasi à temps plein, hein, je pense, pas loin. Heureusement, tu as une bonne équipe. Pareil, de bénévoles, il y a. Et donc, Lionel, qui a pris la présidence il y a un an, et qui a plein de belles idées et qui déjà avance vite et bien. Donc on est ravis et donc je suis vraiment très heureux qu'aujourd'hui tu puisses participer à ce débat. Et je me suis dit que c'était aussi très intéressant d'inviter Maxime Prodromides, qui est déjà un Ilien comme nous, Porquerolles, qui vit pas très loin. Donc il a fait un petit bout de trajet pour nous rejoindre et qui est surtout président de Smilo. Tu vas nous en dire deux mots. Une association qui aide les petites îles dans le monde, les petites îles fragiles à travers le monde. Donc finalement, nous, on est une petite île, mais cette problématique, finalement, on la partage avec plein d'autres petits bouts de territoire à travers le monde. Peut-être juste, tu nous présenteras rapidement Smilo et justement ces problématiques sur lesquelles vous intervenez. Oui. Mais très rapide.
Smilo, c'est une association internationale. Donc, on a dû choisir un mot anglais avec un acronyme, c'est Small Island Organization. On s'est débrouillé pour qu'on puisse se dire en français Smilo. Puis en même temps, en anglais, Smilo, ça fait penser au sourire, smile. Voilà, le nom est venu comme ça. Il y a eu un précédent qui était Petites Îles de la Méditerranée, qui est une structure qui a été montée par le Conservatoire du Littoral et qui s'occupait notamment de la biodiversité sur des petites îles, mais vraiment des très petites îles, souvent inhabitées. Donc, l'idée, c'était d'étendre ce principe au monde entier, avec des îles un petit peu plus grandes, mais pas plus de 150 km². 150 km², ça fait à peu près 13-14 fois le Levant, pour qu'on puisse avoir des communautés avec qui on travaille suffisamment soudées et homogènes pour ne pas disperser les actions. Ça, c'est à l'initiative du Conservatoire du Littoral. On a commencé à travailler en 2014. On a créé l'association fin 2016, formellement. Et on a tout de suite commencé avec une quinzaine d'îles. Aujourd'hui, on en est à 60 dans le monde. Donc, il y en a aux Philippines, en Indonésie, en Méditerranée, bien sûr, en Afrique, il y en a une au Mexique. Le programme a pris de l'ampleur. Il y a toujours, on a commencé avec deux permanents, ils sont 8 maintenant. Mais ça reste à taille très humaine. On ne veut pas trop disperser et les actions et les personnes. Et on a commencé à travailler avec le Levant en fait, au départ, parce que on a interrogé les parties prenantes du Levant, dont Frédéric en face de moi. Il y avait un besoin de traitement des déchets verts, puisqu'il y avait interdiction d'éco-buage, etc. Donc, on a monté une opération avec la Fondation Albert II de Monaco pour financer les broyeurs à déchets verts, qui, j'espère, fonctionnent toujours. Il faut les vérifier encore. Donc ça a été la première chose au Levant. Je racontais aussi à Laurent qu'on avait monté avec le Parc National, la mairie, le Conservatoire du Littoral et Smilo, des journées qui s'appelaient les ateliers des horizons possibles. Alors, c'était sur les trois îles. C'était des étudiants de fin d'année de l'école d'architecture de l'UMINI. Tu te souviens, Frédéric?
Oui, oui.
Dont le but, c'était que leur professeur leur demandait de faire un projet, ils choisissaient sur une des trois îles. Mais en fait, tout l'intérêt, c'est qu'on a passé du temps avec eux sur chacune des trois îles, à interroger les habitants, les pouvoirs publics, la mairie, etc., sur les questions d'urbanisme, d'architecture, paysagère de chaque île. Et sur le Levant, bon, c'est pas par démagogie, mais c'était peut-être le plus intéressant, parce que c'est le cas le plus, j'allais dire, le plus complexe, le plus divers entre, bon, évidemment, la partie militaire, cette partie ici, et le côté village-jardin. Donc ça, les étudiants, à l'époque, ça les a beaucoup fascinés. Le fait qu'il y ait ces constructions qui s'étagent sur toute la pente, et qu'en même temps, je ne sais combien de maisons, mais presque toutes, je crois, ont toutes des jardins. Donc voilà, c'était particulièrement intéressant.
On va revenir justement sur cette notion d'île-jardin, parce que c'est quelque chose qui peut être un des atouts de l'île.
Je voudrais juste préciser une chose, c'est que le programme Smilo est articulé autour de 5 piliers qu'on a définis au départ, c'est la biodiversité, les paysages, et ensuite le traitement de l'eau, le traitement de l'énergie, la question de l'énergie, c'est-à-dire nouvelles énergies, et le traitement des déchets. C'est-à-dire qu'en fait, vous en avez deux qui sont biodiversité et nature directe, et les trois autres qui sont des thématiques du développement durable, qui doivent aider à la conservation des produits. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne.
Lionel, si tu devais définir aujourd'hui le Levant et finalement sur le thème environnemental et où le Levant en est aujourd'hui, tu dirais quoi en quelques mots?
En quelques mots, le Levant est un territoire extraordinaire, riche par sa biodiversité, par les hommes et les femmes qui y vivent, mais en même temps un territoire extrêmement fragile, lié à deux éléments. C'est l'eau et le feu. On est extrêmement fragile avec l'eau, on reviendra, et extrêmement fragile parce qu'on est vulnérable avec le feu. Il suffit de regarder autour de nous pour s'apercevoir que effectivement, ça pourrait vite être très dramatique sur le Levant. Donc on y travaille. Donc en fait, l'équilibre sur le Levant, c'est de réussir à conserver cette biodiversité, ce jardin extraordinaire, tout en travaillant pour nous préserver. Demain après-demain, avec ces températures qui montent, cette sécheresse, etc. Donc c'est vraiment un sujet important qu'on porte avec toutes les associations du Levant. On est tous à travailler sur le sujet et sur lequel on est en train de bosser. Il y a des axes de réflexion et de perspective.
Est-ce qu'on n'a pas justement accumulé un petit peu finalement de retard et de handicap sur ces questions-là? Du fait que le territoire était un peu peut-être déconsidéré ou en tout cas pas pris en charge par les...
On a eu pendant très longtemps un retard par rapport à ce que je connais. Moi, ça fait 20 ans que je suis sur le Levant, 20 ans en tant que touriste au départ et maintenant presque 5 ans en tant que propriétaire. Et le fait de s'investir sur le Levant, c'est de se dire, voilà, au moment où je reprends ma retraite, voilà, 63 balais, je peux redonner un peu de mon temps et rendre au Levant ce que le Levant m'a donné. C'est vraiment ce que je dis. Je suis implanté ici. J'ai mon épouse qui est... C'est ma résidence principale. Hein, et j'ai un fils de 15 ans. Donc, on œuvre vraiment sur le Levant. Et en fait, l'idée pour nous, c'est de réussir effectivement à conserver ce, ce lieu pas ordinaire, et surtout de se faire entendre auprès des instances politiques. C'est-à-dire qu'on a besoin de la mairie, on a besoin de la métropole, on a besoin de la préfecture pour travailler avec nous. On a depuis un an multiplié un nombre de réunions importantes à tous les niveaux, le SDIS par exemple, avec les pompiers, pour mettre en place.
C'est le service de
départemental de l'intervention et de sécurité, de l'incendie et de sécurité. Et en fait, on a bossé avec eux tout cet hiver, et comme par hasard, le lendemain de l'Assemblée Générale, il y a un début d'incendie sur le Levant, et en fait, ce sur quoi on avait travaillé cet hiver, en fait, s'est avéré efficace. Tout ça pour dire que tout le travail qu'on est en train d'opérer aujourd'hui sur le Levant, alors de façon plus ou moins visible, c'est juste pour garantir et sécuriser notre paradis.
Maxime, tu parlais justement des îles que vous suivez à travers le monde, donc des petites îles, finalement des territoires assez semblables, qui peuvent avoir donc des problématiques très comparables à la nôtre, aux nôtres. Mais est-ce que toi qui connais bien le Levant aussi, quelle spécificité tu définirais par rapport au Levant versus ces...
Je ne prétendrai jamais bien connaître le Levant devant des Levantins.
En tout cas,
ta
vision. Non, mais si j'habite là-bas. Mais avec ton regard de spécialiste, on va dire.
Ben, je l'ai dit un peu au début, je veux dire, franchement, si vous regardez tout le panel des 60 îles Smilo, des îles que je pourrais comparer terre maintenant avec le Levant, il n'y en a pas. C'est vraiment très particulier, de part par le découpage de 9 10e armée, 10e, enfin à peu près, civile, le fait que depuis 31-32, c'est un village naturiste, on n'a pas de... Il y a des îles où il y a des plages naturistes, mais il n'y a pas de village naturiste comme le Levant. D'ailleurs, je crois que c'est assez unique au monde. Ensuite, il y a la configuration urbanistique et paysagère qui est... Parfois, ça me fait un peu penser à certains villages grecs comme ça, mais en même temps, c'est tellement plus vert, c'est tellement plus boisé, et la biodiversité est tellement plus riche, je ne suis même pas sûr que la comparaison tienne. En revanche, ça, c'est pour le dessin d'ensemble qui fait que le Levant est quand même vraiment assez unique. Quand on descend au niveau des thématiques qui intéressent Milo, eau, énergie, déchets, biodiversité, paysage, alors oui, je peux comparer. À l'intérieur de chaque thématique, la question d'eau, on la trouve à peu près sur toutes les îles Milo.
C'est une question qui va devenir de plus en plus...
Qui va devenir, bah, évidemment, avec le réchauffement climatique, l'assèchement, etc., ça deviendra de plus en plus important. La question du traitement des déchets, bon, on a commencé ici... avec les déchets verts, mais en général, ça se retrouve, je crois, chez vous aussi. Et quand je dis l'eau, aussi, il y a des questions d'assainissement. Je crois qu'il y a des questions d'assainissement au Levant.
On n'a pas d'assainissement collectif, donc on a des assainissements individuels,
ouais.
Mais ce qui doit être le cas sur la plupart des petites îles.
J'ai un petit souvenir à propos de ça, c'est parce qu'avant, j'étais président du Conseil économique, social et culturel du Parc national de Porto pendant mon VHR. On a beaucoup travaillé avec Frédéric. Christophe Chevalier était vice-président pour le Levant et Porto. Je me souviens que le Conseil national de protection de la nature, la première fois qu'il est venu ici, ils sont venus ensuite à Porquerolles, je les ai vus, ils nous ont dit, on va demander un assainissement collectif pour le Levant. Je dis, oui, très bien, mais vous savez que c'est une copropriété. Ils m'ont dit, ah bon ? Ils ne s'étaient pas rendu compte, je ne comprends pas comment. Mais enfin bon, il y a des problèmes aussi donc d'assainissement, des problèmes d'énergie. Alors là, je ne sais pas du tout où vous en êtes. Il y a le câble que, je crois que c'est Lucien Fourneau qui avait fait tirer le câble jusqu'au port du Levant. 89, c'est ça.
Oui, juste pour rappeler, tout le monde n'est peut-être pas ici au courant, qu'on a l'électricité que depuis 1989. Donc en fait, auparavant, il y avait des frigos à gaz, des petits groupes électrogènes, mais c'est vrai que l'arrivée de l'électricité a complètement bouleversé le mode de vie des Levantins. Parce que ça, du coup, ça a permis une urbanisation aussi, que tu dois le voir sur certaines îles. Il y a un phénomène en fait d'accélération de l'équipement en général.
Oui, alors à Porquerolles, c'est la multiplication des groupes froids, par exemple, pour les restaurants, etc., qui font une consommation électrique démentielle. On a fait des audits là-dessus. Maintenant, je ne sais pas si vous souhaitez, par exemple, avoir une production autonome d'énergie, via panneaux solaires, par exemple, parce qu'à Porquerolles, on le souhaite. Et là, on se heurte aux architectes des bâtiments de France et à l'Adréal qui nous disent « Niet, site classé, parc national, co-visibilité avec des monuments classés, en gros les forts qui sont classés au Porquerolles. » Donc, pour arriver à mettre des panneaux solaires sur des bâtiments au fond du port, en toiture, chute, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas quand on arrive, on débarquant de la navette, il a fallu 6 ans pour débloquer les trucs.
Et puis,
vis-à-vis de la BF et de la Réal. Et c'est MTPM qui nous a bien aidé, là, je veux dire. Bon, donc je ne sais pas.
Et nous, on a le droit. On peut.
Alors, y a
je pense que c'est plus facile pour vous.
Il y a des conditions, il faut que le bâtiment ait une existence légale. D'accord. Donc déjà, ça élimine pas mal. Et en fait, il y a une propriété qui a eu installé des panneaux solaires. Moi, j'avais le dossier, hein, j'ai pas fait.
Ça, on élimine 70% ou ça, on élimine 30%.
Attendez, juste si je peux me permettre, il ne faut pas vouloir mettre des panneaux solaires pour mettre des panneaux solaires. Il faut être sûr de l'utilisation, voilà. Que ça peut être de l'autoconsommation, ce n'est pas aussi évident. Parce que Enedis vous dit, ben non, vous renvoyez dans le réseau, etc.
Ouais, donc, que ce soit consommé.
C'est pour ça que je pose la question. Est-ce que vous le souhaitez aussi, non?
Ah ben, presque. Mais je n'ai jamais reçu encore l'étude. Le prestataire en question.
Il faut qu'on ait des batteries.
Moi, je l'ai reçu. C'était 112 000 euros. Ouais. Sans batterie. Et je crois que la Roche-en-Mouette, c'est 15 ou 16 000 euros. Ils ont une batterie.
Ils ont une batterie, oui. Ils sont autonomes.
Oui, parce qu'avec sans batterie, ça n'a pas trop d'intérêt. Si c'est pour le renvoyer.
Maintenant, jusqu'à il y a deux ans, la mairie bloquait quand même les demandes de panneaux solaires. Il y avait plusieurs maisons qui avaient demandé et ça a été refusé parce qu'on était zoné, parce qu'on n'avait pas de borne d'incendie à proximité, parce que les maisons n'étaient pas légales, il y avait plein de complications. Ça semble s'ouvrir un petit peu plus récemment.
Oui, parce que c'est vrai que c'est quand même dingue de se dire qu'on est une île en pleine Méditerranée avec le soleil toute l'année. Et que finalement, on développe pas notre autonomie, oui, ou en tout cas une vraie partie de notre autonomie en énergie. Parce que c'est vrai qu'on se dit, alors, il y avait cette restriction sur la zone naturelle, puisqu'on est en zone naturelle, c'est quelque chose qui pourrait peut-être évoluer.
Qui va évoluer, le PLU est en train de changer. Donc on va travailler sur le PLU à partir du mois d'octobre avec la nouvelle équipe municipale. Notre sujet numéro un sur le Levant, un des sujets importants, on parlait du feu, c'est le fait qu'on n'ait pas de réseau incendie sur le Levant. C'est-à-dire aucune borne incendie. C'est-à-dire aujourd'hui, en cas d'incendie, on a les camions des marins-pompiers d'à côté avec 3-4 000 litres de disponibles. On a avancé, on a mis des motopompes, une quarantaine de motopompes dans les habitations. Mais tant qu'on n'aura pas un réseau incendie capable de délivrer à certains points stratégiques du Levant de l'eau pour venir combattre le feu, on aura beaucoup de difficultés à avoir certaines autorisations. Donc on travaille sur le sujet, on est en cours. Il y avait d'ailleurs l'équipe des pompiers de hier, aujourd'hui sur le Levant, pour faire une pré-étude justement sur ce réseau incendie qui serait cofinancé par le fonds de dotation qu'on a créé sur le Levant justement pour travailler sur l'incendie et sur l'eau, on pourrait y revenir tout à l'heure, mais qui nous permettrait au moins d'être au clair sur le Levant en disant voilà, on a 8 ou 9 bornes d'incendie disponibles en cas de départ.
Mais Maxime, tu me disais quand on préparait cette conférence que toi, ta vision que tu as, c'est de te dire combien ont été visionnaires les frères d'Urville dans les années 30, au début des années 30, en faisant cette charte avec notre article premier que vous avez peut-être vu, qui est affiché à certains endroits avec beaucoup de propriétaires, beaucoup d'Illiens affichent avec fierté l'article 1 qui est un peu notre... Je t'invite à lire si tu veux, juste où je le dis. L'article 1 qui... Donc, quand même juste le redire, puisque c'est les fondements en fait de la création de ce domaine. Et leur vision en 1931 était que Héliopolis devait être, dans l'esprit de ses fondateurs, non pas une agglomération de maisons et de villes alexieuses, avec ses garages, ses casinos, ses maisons de commerce, mais une simple cité rustique où les amateurs d'air et de soleil viendront dans le calme d'une nature splendide, on l'a toujours, se reposer des fatigues de la civilisation artificielle des villes en passant des vacances simples et saines avec le seul luxe d'un idéal élevé et le seul souci d'une santé robuste. Donc, quand on lit ça aujourd'hui, on est en 2026, ça a été écrit il y a quasi un siècle, on se dit, mais c'est incroyable, ces deux mecs étaient complètement visionnaires. Et aujourd'hui, on se rend compte à quel point des gens viennent ici chercher. Quand on discute, je vois être beaucoup de vacanciers là aujourd'hui, c'est génial, qui nous ont rejoints. Et finalement, les gens viennent chercher, et nous aussi, bien sûr, en tant qu'Ilia, on est venu chercher, on a choisi de s'installer ici, mais venir vers nous et passer ces vacances justement avec cette envie de finalement couper, déconnecter du quotidien et du continent, où, c'est vrai, maintenant, la civilisation a rattrapé et quasiment tout le territoire, et on le voit ces dernières années, ces derniers mois, est dans une course folle à la consommation d'énergie et puis au dérapage qui en découle. C'est vrai qu'on se dit que ce petit bout de territoire, finalement, il y a quand même une super opportunité à jouer pour dire on a quand même encore aujourd'hui plein d'atouts. Ouais. Et comment on peut finalement les préserver, ne pas les abîmer, les transmettre et en faire de vraies valeurs finalement sur lesquelles on continue de s'appuyer.
Moi, je trouve que ce qui est écrit là, en fait, vous dites rien. Vous vous mettez sous l'aile de ceux qui prônent, enfin, je veux dire, ceux qui parlent, ceux qui développent les principes de la transition écologique, les manières de transition. Donc, ça peut être Jean Covici, Patrice Morisot, des gens comme ça qui sont dans cette. Bon, qui sont célèbres au niveau national, même international. Vous dites, voilà, c'est eux qui ont écrit ça, tout le monde vous dira, ah oui, c'est sûr, c'est eux. Et ça a été écrit, comme tu le dis, il y a un siècle. Donc, c'était visionnaire. Et à partir de ces principes fondateurs-là que vous continuez à suivre, entre guillemets, vous êtes en avance sur d'autres pour qui la transition vers des modes de vie moins impactants, plus respectueux de la nature, enfin bon. Pas forcément d'ailleurs, seront beaucoup plus difficiles parce qu'ils vont partir de beaucoup plus loin. Donc, il y a non seulement une concordance entre les phénomènes de transition environnementale qui sont à mettre en œuvre et la réalité du levant qui est la plus proche de ça, il me semble. Enfin, ouais. Et les principes de vie du levant, non ?
Bah, en même temps, on n'est pas très autonome. On est incapable de produire des fruits et légumes sur place, on importe tout du continent, donc c'est hyper polluant.
Alors c'est un autre sujet qui tient beaucoup à cœur, c'est l'autonomie.
Si on voulait être vraiment écolo, il faudrait qu'on produise, qu'on ait un... Ouais. Mais ce qu'on fait tout venir, en fait, donc c'est pas hyper...
Là, on a un problème, c'est qu'on n'a pas d'eau. Hein,
oui, non, mais je dis pas que... Donc, quand on respecte l'écologie, on n'est pas...
L'écologie ne demande pas à ce qu'on soit autonome au niveau de la nourriture, hein.
Bah, non. Problème,
non. Non, mais Laurette a raison. C'est pas un impératif. Ça peut être souhaitable, mais c'est pas un impératif.
Non, mais ça peut être un chemin aussi. On fêtera en 2032 les 100 ans d'Héliopolis. Il y aura un siècle en 2032, donc c'est demain matin. Et on se dit, un siècle plus tard, il reste quoi ? Il reste quoi d'Héliopolis ? Il s'est passé quoi sur les 100 dernières années ? Il faut se remettre aussi dans le contexte. Hein. Je veux dire, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et l'ADN de ce qui a construit Héliopolis et les Durville, c'est quand même important. À l'époque, on a quand même deux médecins qui amènent sur le Levant des personnes aisées, capables de prendre un billet de train, capables de prendre des jours de vacances, donc de ne pas travailler tous les jours, il y a 100 ans, pour venir s'implanter au Levant et chercher une vie meilleure. Moi, du stress. Il faut se remettre quand même dans le contexte. Avec des cabanes qui étaient de petit à moyen confort, à grand confort, pour ceux qui... mes pensées, avec aujourd'hui, 100 ans plus tard, ça, on l'a tous, là, j'en vois un rouge, j'en vois un peu partout, donc on est tous 100 ans plus tard sur autre chose. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui de ce que les Durville ont construit, vers quoi on tend, et qu'est-ce qu'on amène sur les 10, 50, 100 prochaines années sur le Levant. C'est ça qui est intéressant. Alors, il ne faut pas être arc-bouté sur avant c'était mieux et comment ils ont fait. Non, je vais vous donner un exemple très précis. Il y a 100 ans, très très peu de monde prenait de la chimie pour se soigner. Aujourd'hui, 80% de la population levant, pas loin, prend de la chimie que vous retrouvez dans les nappes phréatiques, que vous retrouvez à travers l'eau, que vous trouvez dans la pollution quotidienne que l'on a. Donc ça, c'est quand même un élément important, il faut en tenir compte, parce qu'on parle de l'eau. Le vrai sujet aujourd'hui sur le levant, avant même l'incendie, c'est l'eau. C'est-à-dire que si je n'ai pas d'eau, ben, je ne combats pas l'incendie, si je n'ai pas d'eau, je ne vis pas au quotidien, je ne fais pas de fruits et légumes, même si c'est d'autres moyens, et il y a de la permaculture qui nous permet aussi. Voilà. Donc le vrai sujet, c'est de se dire, c'est un peu le thème aujourd'hui, comment on peut devenir un modèle ? Alors un modèle, ça veut dire ce qu'on suit. J'ai plutôt tendance à comment on continue à être un laboratoire, parce que les Durville ont créé un laboratoire. Comment on continue à faire du Levant un laboratoire, un vrai laboratoire ? Et on pourrait y revenir, il y a plusieurs pistes de réflexion là-dessus. Et surtout, comment on fait pour faire en sorte que ce qu'on va bâtir, construire, ce sur quoi on va travailler, soit duplicable ailleurs. On a déjà eu des échanges avec Maxime. Il y a des petites îles qui ont fait un travail extraordinaire sur le traitement des déchets, sur différents sujets. On se nourrit de ça. Comment demain on fait pour que le travail qui était fait au Levant, un travail de, ce que j'appelle un travail de tronche, un travail collectif sur de projections puisse servir à d'autres personnes.
Mais Lionel, moi je retiens surtout aussi beaucoup dans cet article premier qu'on a vu tout à l'heure, cette notion de sobriété,
oui.
De recherche de la sobriété et qui finalement fait partie de la philosophie naturiste. Vivre finalement nu, c'est juste un aspect, même si on le fait en permanence, c'est surtout cette recherche de la sobriété, de moins consommer, de mieux consommer, plus intelligemment, préserver son environnement, préserver la nature. Est-ce que ça, on ne s'en est pas complètement écarté, ou en partie écarté, au levant, on a oublié finalement ce principe fondateur de la sobriété?
Et oui, je prends souvent l'exemple des ventes de maisons, des rachats de maisons et de la transformation urbanistique sur le Levant. 70% sur le Levant des maisons n'ont pas de permis de construire. Je rappelle, 70% n'ont pas de permis de construire.
C'est sûr, 70%?
Oh bah c'est pas loin, Laura.
Il faudrait regarder quand même, ça m'étonne.
Il y a très peu de permis de construire sur le Levant.
Bon,
très
après, il y a eu des périodes comme maintenant où les permis sont interdits, donc
Juste pour terminer ma pensée, les maisons qui ont été vendues à l'époque, les cabanons d'Urville, etc., qui, eux, avaient des permis, etc., ont été revendues à certaines personnes, à un certain prix, qui ont fait des travaux d'amélioration, des travaux d'aménagement. Ces cabanons d'Urville, on en a très peu, c'est-à-dire qu'on s'est écarté petit à petit.
Il faut qu'on les garde.
Oui, mais on s'est écarté de ce mode de vie, je veux dire, très basique. Le Levant, à l'époque des d'Urville, c'était plus un camping Trigano, au début du Club Med, qu'autre chose, avec un mode de vie effectivement à préserver. Donc ce qui va être intéressant sur ce que les d'Urville ont conçu, c'est ce mode laboratoire. C'est-à-dire ce laboratoire-là, qu'est-ce qui en reste et comment on fait pour préserver tout ça. Le fil conducteur là, derrière tout ça, pour réussir à limiter cette surconsommation, cette course à mieux, c'est l'eau. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui au Levant un niveau de stockage d'eau, on a tous des cuves plus ou moins importantes qui doivent nous permettre de passer l'été. Alors c'est de plus en plus compliqué parce que les étés sont chauds, c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a de plus en plus de monde sur le Levant. Donc le vrai sujet, c'est quoi la jauge maximum sur le Levant? 1700, 1800 personnes le 15 août au maximum. Comment on fait pour limiter cette jauge sur le Levant de manière à limiter effectivement cette consommation et préserver notre environnement?
Mais est-ce qu'on peut vraiment stopper cette urbanisation finalement? Est-ce qu'on a moyen?
Là il y a un travail avec la mairie. Jusqu'à maintenant, pour être très clair, les anciennes équipes, c'était le Levant, ne nous en parlez pas, vous débrouillez, faites ce que vous voulez.
Je confirme.
On ne parle pas de, ne parlez pas d'incendie, vous démerdez. Ne parlez pas de pollution d'eau, vous démerdez. Ne parlez pas d'urgence. Donc en fait, il y avait une fin de non-recevoir. Mes premières, quand j'ai été élu il y a un an, ma première réunion avec le maire de l'époque était juste sidérante. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu ce que c'était qu'une fin de non-recevoir dans l'attitude et dans les paroles. La nouvelle équipe est plus attachée, effectivement, donc à ces îles d'or. Et surtout, on a la chance d'avoir un conseiller, Frédéric Bertrand, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est très attentif. C'est quelqu'un qui connaît depuis 20 ans le Levant, qui est naturiste, qui connaît très bien l'article 1 et qui va avancer avec nous sur différents sujets. Donc, pour une fois, on a l'écoute d'une part de la mairie, de la préfecture, parce qu'on doit avancer aussi avec la préfecture sur certains sujets, de manière à pouvoir effectivement, sur l'urbanisme, se détendre un peu de cette zone N, permettre la construction de cuves pour récupérer l'eau, parce qu'en zone N, vous n'avez même pas l'autorisation de construire une cuve de 15 mètres cubes pour récupérer de l'eau.
Alors,
tout à fait. Récupérer de l'eau polluée, parce que l'eau, qu'elle vienne de la toiture ou qu'elle vienne du forage, cette eau est impropre, c'est de l'eau agricole. Pour être très clair, c'est ce qu'on appelle de l'eau agricole. Donc on récupère dans nos cuves de l'eau agricole, mais nous n'avons pas d'autre solution que de récupérer cette eau agricole, de la traiter. Donc on a tous des systèmes UV, une batterie de filtres, mais au bout du bout du bout, quand vous avez... On a eu des réunions cette année avec l'ARS, on a eu plusieurs réunions avec l'ARS,
l'Agence régionale de santé,
qui a fait des études, effectivement, de sortie d'eau au port et de certains points sur le Levant. Autant vous dire que oui, il ne faut pas consommer l'eau du Levant telle qu'elle est là. Et même, alors on la filtre au maximum. Alors je consomme l'eau filtrée.
Vous la reminéralisez?
Non, on la filtre
éventuellement. Oui.
Non, allez, on la.
Non, alors
attendez, mais c'est,
c'est pas
l'eau.
C'est
l'eau qui vient d'où?
Pour certains, oui. Forage.
Ah, c'est l'eau du forage. Non, je pensais que c'était l'eau des toitures. C'est pour ça que je
non, c'est l'eau du forage.
Même l'eau des toitures.
Mais en, les, château d'eau est alimenté par les forages, deux forages de la mairie.
Ouais.
Et nous, on a un gros forage, c'est aussi qui alimente les...
Mais
oui, des 160
mètres. Maxime...
160 mètres. Ah. Des maisons ont individuellement des cuves de récupération d'eau de pluie.
Ça, il faut minéraliser.
On la boit pas.
Parce que sinon, la seule utilisation, c'est les toilettes et le jardin.
Oui, bah, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Non, mais après, on peut nettoyer. Je veux dire, il faut faire un travail.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, un autre enjeu.
C'est sérieux ce qu'on fait, mais il faut le faire. Il y a moyen avec les
technologies. Tu parlais des déchets. Donc, ça veut dire que l'eau de consommation, pour la consommation humaine, comme vous voyez tous, c'est les petites bouteilles de cristalline. Où on est certain à s'être équipé de machines, voilà, de certaines marques qui sont des fontaines à eau atmosphérique, mais qui créent, c'est en fait des déshumidificateurs sur le principe, mais là qui osmose avec un osmoseur et qui reminéralise l'eau. Donc là, elle est potable, mais donc c'est
non validé par l'ARS.
Donc ça veut dire que on consomme. Je crois, 500 000 de bouteilles plastiques.
On consomme au Levant
1 million de bouteilles d'eau potable au Levant. Donc c'est imaginez la montagne de plastique qu'on retraite.
C'est une étude qu'on avait fait en 2018 pour arriver au million.
Oui,
entre les bibis, entre les deux.
Entre les deux, voilà.
On avait cofinancé avec Smilo et on avait extrapolé sur Porquerolles. On avait dit si c'est 1 million au Levant, ça doit être 3 à Porquerolles.
Alors, est-ce toi, avec ta vision internationale, justement, de ce type de problématique, puisque la problématique de l'eau, elle est la même dans d'autres petites îles qui n'ont pas forcément de source ou de forage avec une eau propre à la consommation. Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que, alors on parle bien sûr désalinisation de l'eau, est-ce que c'est quelque chose qui marche? Est-ce que c'est quelque chose qui est efficace? Est-ce que c'est quelque chose qui est à la portée d'une petite île, d'un petit territoire comme le nôtre?
En général, il n'y a pas une solution massive pour remplacer une autre solution massive. C'est comme l'énergie. Les nouvelles énergies, ça peut être du photovoltaïque, ça peut être de la géothermie, ça peut être de l'éolien. En général, c'est la combinaison de tout ça qui est intéressante. Et pour l'eau, alors, peut-être un peu moins, mais quand même, c'est un peu pareil. Si tu fais une usine de dessalement, en général, il ne faut pas compter que sur l'usine de dessalement. Parce que le jour où tu n'as plus d'électricité, alors tu as des
hydrogènes,
etc. Dans tous les phénomènes de transition, et particulièrement les petites îles, il faut un mix. On s'en sert mieux avec des mix, alors il faut que ça soit piloté et bien piloté. On s'en sert mieux avec des mix plutôt qu'avec une solution dont on va dire qu'elle est durable, qui remplace une autre solution qui n'était pas durable. C'est toujours un mélange de choses. Maintenant, sur la question de l'eau, bon, je vais vous dire que sur l'eau et l'assainissement, je n'arrive pas. Comprendre que la DGA puisse faire une step, puisse faire la station d'épuration, une usine de dessalement, et n'accepte pas que vous soyez relié aux deux. Bon, allez. Non, mais ça, moi, ça me.
Bon. Alors, le débat n'est pas encore clos.
Je comprends très bien les impératifs de l'armée. Hein. Je suis pas en train de
l'arrivée. Maxime, le débat n'est pas encore clos.
On a déclenché il y a 4 mois une réunion.
Une guerre.
Au niveau de la. Plus qu'une réunion, parce qu'on était un peu tonique sur le sujet auprès du préfet. Donc en fait, on était reçu à la préfecture. Il y avait beaucoup de monde, parce que j'ai vu 30 personnes pour le Levant. Donc c'est la première fois que ça arrivait. C'était assez impressionnant. Ça nous a permis d'expliquer quand même que la DGA nous explique de son côté qu'il y a 25 ans ou 15 ans ou 25 ans. Les Levantins n'avaient pas voté, je ne sais plus quelle la station de traitement, etc. Mais ils nous l'ont ressorti.
Une assistance.
Donc c'est Waro qui était déjà à la direction de la DGA. Bref, il y avait quand même des représentants de la municipalité. Il y avait la directrice de cabinet du préfet qui était quand même sur place, très surpris de la réaction de la DGA. Je peux vous dire qu'on ne lâche pas, on n'a pas lâché et que. On attend effectivement les prochains points avec la mairie et la DGA qui devraient avoir lieu dans les prochains jours pour avancer sur le sujet. Il faut savoir que la DGA n'a toujours pas signé son bon de commande officiel pour sa station de dessalement, que l'étude est plutôt en cours avancé et en discussion aussi rapprochée avec Frédéric Bertrand, mais on ne lâche pas. Maxime le disait, le Levant, c'est 1000 hectares. Héliopolis, avec les arbousiers, c'est 60 hectares, donc 6%, et le village d'Héliopolis, c'est 4%, c'est 4 hectares. Le Levant, c'est 800 mètres sur 600 mètres. J'ai fait le, j'ai fait le ratio par rapport à ces 1000 hectares. Donc effectivement, nous on est ici toute l'année une centaine de personnes l'hiver, on monte à 1800 l'été sur 4% de l'ensemble du Levant. Les militaires sont au maximum dans les pics de saison avec les sous-traitants, etc., 250 à 400 ponctuellement. Donc leur station, pour faire court, leur station de dessalement est dimensionnée pour 60 à 70 mètres cubes jour pour eux. Aujourd'hui, notre forage vient pomper 57 mètres cubes jour pour alimenter Héliopolis en distribution, en dehors des forages privés. Donc on s'est dit que 60 mètres cubes côté militaire, où personne n'est là pendant le mois de juillet et août, ça serait intéressant de travailler en commun et de faire...
Alors que justement, et notre besoin, nous, c'est juillet et août.
C'est juillet. Et là, on est sur ce que dit Maxime, et c'est là où c'est intéressant. Ce n'est pas une solution qui va remplacer la totalité. On a besoin de récupérer l'eau. On s'en sert pour les toilettes, on s'en sert pour prendre une douche. Par contre, on ne s'en sert pas pour consommer. Et cette eau dessalée, alors il faudra trouver la solution aussi pour la ramener potablement dans les différentes structures, différents établissements, et pouvoir la stocker pour la... Ça ne sera pas l'eau qui va... On ne va pas ouvrir un robinet pour avoir de l'eau courante au Levant. On va toujours faire attention à ce qu'on consomme. Et la consommation, je veux dire, standard au Levant, estimée, c'est 70 litres par jour et par personne pour les douches.
70 litres
Peut-être un peu plus.
Mais 70 litres, c'est déjà
je dirais
bien.
Plutôt oui, 80.
Parce que la moyenne nationale, c'est 170.
Oui, c'est la
mais,
moitié.
Mais justement, pour rebondir sur ce que tu dis, Lionel, on n'ouvrira jamais le robinet comme ça avec de l'eau qui coulera en permanence. Mais justement, je crois que c'est une des vertus de notre statu quo, finalement, aujourd'hui.
Bien sûr.
C'est le fait que même vous, vacanciers, quand vous venez ici, moi, je l'ai vécu quand j'ai découvert le Levant, c'est que quand je repartais à Paris... Bah chez moi, pendant encore un moment, je faisais vachement attention à l'eau. Et finalement, alors on rejoint ce que tu disais tout à l'heure, on a cet atout, c'est finalement un atout, c'est justement de se dire, on ne recherche pas à avoir l'eau courante au Levant, parce que justement, c'est une sorte de pédagogie, finalement. Tu parlais de laboratoire, mais quand on vient au Levant, on en repart avec quelque chose en plus, notamment sur le thème de l'eau, pas que, mais sur le thème de l'eau. De se dire, finalement, j'apprends, on parlait de cette sobriété, bah là, la sobriété, elle est contrainte. Mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas en faire un atout pour demain ?
Bien sûr. Ben ça, c'est notre, en fait, c'est notre ligne à ne pas dépasser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait qu'on aura autant d'eau à distribuer. Parce qu'on distribue l'eau, hein, c'est l'ASN, on a des jardiniers qui distribuent tous les jours de l'eau en fonction des demandes, en fonction d'un planning.
En complément de l'eau de pluie.
Alors nous, on a au niveau du bureau, en ce moment, c'est Frédéric qui s'en
occupe. J'ai vu il y a quelques années qu'il y avait des cadenas sur les vannes.
Ben oui, parce que certains propriétaires ouvrent l'eau pour se servir. Et en fait, comme on a le château qui l'a distribué par gravité de l'eau un peu partout, sur les hautes corniches, on a 0,5 bars, 0,8 bars. Et en bas, j'ai 10 bars d'eau. Donc en fait,
l'eau, elle descend.
L'eau, elle descend. Donc, et c'est aussi une particularité.
Ce qui est marrant, c'est que j'ai vu ça, en quelque sorte, à Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie,
ouais,
qui est une île Smilo.
Oui.
Mais ils ont trouvé, parce qu'ils ont aussi. Ils ont deux petites unités de dessalement, auxquelles ils ne font pas confiance d'ailleurs. Mais pour limiter la consommation, la mère a dit bon, moi je stocke, j'ai une grande cuve, je stocke, et telle famille a le droit à tant de mètres cubes parce qu'ils sont 4 et l'autre 6.
C'est l'idée.
Et ils appellent, ils disent j'ai besoin de 2 mètres cubes, ok, bah, je te les fais livrer. 2 mètres cubes, mais pas plus.
En fait, l'idée de départ, c'est de se dire voilà, on connaît les maisons au Levant, telle maison est prévue pour 4 personnes. On fait un calcul, on fait un ratio à 70 mètres cubes par jour sur Massien, etc. On sait que les.
70 litres,
par mètre cube. On sait qu'ils ont des réserves. On sait qu'ils ont des réserves d'eau, imaginons de 12 mètres cubes, qui effectivement ces réserves tampons. On distribuera de l'eau pour ces 4 personnes à 70 litres par jour. Sur une semaine, ça fait autant. Par contre, quand on est 4 personnes officiellement déclarées dans la maison, mais que globalement, on est 12 parce qu'il y a une petite cabane qui sert de machin, etc., bah, ça devient de plus en plus compliqué. Et c'est la jauge. Et là, c'est vraiment notre jauge. Pour réussir à contraindre quelque part par l'eau, la préservation. Par la préservation du Levant.
Mais on comprend bien que donc, l'eau, c'est vraiment l'or blanc. Ça l'est depuis longtemps au Levant. Ça le devient dans plein d'endroits. Petites îles, mais pas que. Puisqu'on même on voit maintenant que des villes commencent à rationner l'eau potable, l'eau traitée. Alors, moi, on a parlé de l'eau et ouais. Tu as parlé de l'incendie aussi, le risque incendie. Je voudrais qu'on, justement, tu t'évoquais tout à l'heure l'île Jardin, ouais. Ce que tu avais en à présence à l'esprit quand tu avais découvert le Levant. Je voudrais qu'on parle un peu de la biodiversité, parce que finalement, qu'il y a aussi un levier vachement important pour le développement de l'île, peut-être. Tu parlais tout à l'heure, Virginie, de peut-être aussi développer une sorte d'agriculture, pourquoi pas. Il y a peut-être des terrains ici qui peuvent être utilisables, avec si après on solutionne la question de l'eau.
Moi, je suis nulle. Hein, il me dit il y a plein de plantes qui poussent quand même.
Voilà. Mais c'est vrai que, alors justement, ce qui fait un vrai atout, un véritable atout de l'île.
Pour avoir des tomates et pour toute l'île. Il n'y a pas besoin de 15 hectares.
Oui, parce que tu fais du vertical maintenant.
Tu fais du vertical, tu fais des terrasses, tu fais. Etc. Le tout, parce qu'on a fait une expérience pour la Porterolle il y a quelques années, on a monté une association d'insertion. Donc, c'est des jeunes souvent en échec professionnel, social, etc., qui ordonnent des formations. Il faut bien paramétrer aussi du point de vue commercial. Parce qu'on dit c'est très beau de faire pousser des tomates, etc., on est autonome. Mais si commercialement ça perd tout le fric que vous voulez, ça ne va pas durer. Ce qui était le cas là-bas. Donc on est en train de reparamétrer le truc.
Vous n'arriviez pas à les vendre
ou... Il y avait une confusion entre l'association d'insertion qui bénéficie de subventions de la région, par exemple, et le fait qu'ils sont en concurrence. Avec des gens de Valence qui envoient des tomates à prix cassé, même si elles prennent le bateau et qui payent le transport, c'est moins cher que ce qu'ils vendaient. Et parce qu'ils n'avaient pas le même rendement, la même productivité. Donc on va leur monter, et probablement d'ailleurs avec... c'est assez voisin du fonds de dotation, et on ne s'est pas consulté avec Lionel, mais à Porquerolles, on est en train de monter une société coopérative d'intérêt collectif, SCIC. Et c'est un peu le même but que votre fonds de dotation. C'est-à-dire prendre en charge ce que les pouvoirs publics ne prennent pas en charge jusqu'au bout, on va dire, ou alors prendre sous son aile des initiatives locales, etc., qui sont un peu fragiles.
On va revenir sur le fond, ouais, sur cette
politique. Mais sur la biodiversité, juste pour revenir sur la biodiversité, alors je fais le parallèle aussi avec le fond, parce que, juste pour comprendre, quand on a travaillé sur le projet du fonds de dotation, c'était juste pour avoir des fonds supplémentaires pour pouvoir se payer certaines choses qu'on n'arrivait pas à se payer avec uniquement la contribution des Levantins. Donc on a dû trouver d'autres solutions. Bref. Et puis tout en travaillant sur ce fonds de dotation, on a agrégé plusieurs personnes qui sont venues nous voir. Et on a travaillé sur plusieurs thématiques. L'eau, le feu, on en a parlé. Le feu, à un moment donné, c'est un travail fait avec les sachants, c'est-à-dire les pompiers professionnels qui vont nous aider effectivement à mettre en place des solutions. Mais en même temps que ces solutions vont être mises en place sur une île très particulière comme le Levant, on s'est dit, les solutions qu'on va mettre en place sur le Levant, est-ce qu'elles ne sont pas duplicables ailleurs sur d'autres îles ou d'autres endroits où c'est compliqué? Donc là, on s'est rapproché de l'université de Toulon et de Corté, donc on est en liaison avec eux, pour travailler avec des thésards sur justement tout le travail de modélisation du Levant qui va être fait dans le cadre de l'incendie. Et on fera, dans un an comme maintenant, au mois d'octobre, novembre, un colloque sur hier, justement, sur le travail des thésards qui ont été faits. Et dans la poussée de ce travail avec l'université, avec les universités, on va aussi leur demander de travailler sur la biodiversité de demain. C'est-à-dire que comment on se projette pour dans ce qu'on met en place aujourd'hui, ce qui sera visible dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, c'est quoi la solution avec les montées de température, avec nos risques incendie, avec notre manque d'eau? Qu'est-ce qu'on doit transformer? Alors, on ne va pas raser le Levant pour le retransformer, mais quels sont les plans qui nous amèneraient vers un chemin un peu plus vertueux, même si ça met du temps? Et une communication vraiment ouverte là-dessus avec l'ensemble des Levantins, sur propriétaires avec des jardins.
Juste sur la biodiversité, sur l'ensemble de la biodiversité, moi je me souviens avoir parlé avec... d'ancien patron de la DGA, j'ai oublié comment il s'appelait, qui me disait que le parc national venait faire des inventaires côté militaire tous les ans.
Oui, alors moi je me souviens.
Oui, c'était Annie Aboukaya.
Annie Aboukaya venait régulièrement.
Moi je me souviens, c'était en 1994, Emmanuel Lopez, ancien directeur du parc national, me disait que côté militaire c'est formidable parce que comme il boucle tout, ça préserve la biodiversité. Bon, c'est pas ma conception du monde non plus, c'est plutôt l'inverse. Mais bon, est-ce que vous avez, sur la partie civile du Levant, c'est-à-dire votre partie de domaine naturiste, vous avez un inventaire de la biodiversité?
Annie, elle venait aussi régulièrement chez nous.
Il y a eu un inventaire.
Interrogé.
En 1993, de temps en temps, elle venait faire des, des inventaires. Et oui, il y a des études. Le parc vient de faire des études ici, de coléoptères, de temps à autre.
Oui, mais on peut faire une étude de ceci, une étude de cela. Il faut que tu aies une photographie d'ensemble.
Oui, une photographie d'ensemble, elle date de 93.
Donc elle est à refaire. Ah,
parce que c'est vrai que lorsqu'on vient au Levant, tout le monde, je crois que la réaction unanime, c'est incroyable, île jardin, profusion, végétaux, alors que finalement on n'a pas d'eau, on est sur un caillou. Et même là, cette année, avec les 4 canicules ou 5 canicules qu'on a enchaînées, on a quand même une île très verte. Donc finalement, on a un climat. Alors, il y a des années
sinistres individuelles. L'eau, elle s'en va pas. Elle reste sur.
Non, il a plu pas mal quand même.
Des fois, un peu difficilement parce qu'elle a tendance à déborder. Mais.
Mais alors, justement, cette végétation incroyable, comment on peut en faire un atout? Tu parlais justement d'inventaire avec le parc national. On est aussi dans le périmètre du parc national de Port-Cros.
C'est en zone d'adhésion.
Donc on bénéficie quand même justement de ce statut, qui est quand même un statut qui est assez exceptionnel. Et vous le constatez aussi bien dans l'eau, lorsque vous baignez, avec la faune qu'avec la flore ici, qui est très différente puisqu'on a vraiment des plantes endémiques, mais aussi surtout beaucoup d'apports qui ont été faits depuis les générations, depuis les années 30. Donc lorsque vous allez à Port-Cros ou à Porquerolles, c'est absolument un paysage totalement différent, enfin, en grande partie différent. Mais donc justement, cet île jardin, comment on peut essayer aujourd'hui peut-être de se rapprocher avec le parc pour essayer de trouver un moyen de préserver ça, de sauvegarder ça ou,
Moi, mais le parc, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les jardins cultivés, c'est les jardins endémiques. Donc, dans toutes les maisons. Mais non, les jardins cultivés, ça ne les intéresse pas, les fleurs.
C'est un peu catégorique.
Je sais que Dani est râlée parce qu'elle ne pouvait jamais mettre de fleurs en terre.
Ah, ils ne veulent pas que tu mettes des espèces invasives exotiques, évidemment.
Oui, pour ça, ils font la chasse aux grèves sorcières, si tu veux, d'accord.
Pour ensuite.
Mais c'est surtout les endémiques qui veulent protéger.
S'ils font un inventaire, si tu veux, biodiversité endémique, ensuite, une fois que tu as cette photographie-là, ça te permet de travailler sur les jardins. Parce qu'il y a un mouvement qui s'invente. Puis, il y a la biodiversité terrestre, mais il y a la biodiversité marine. Là, vous avez le sanctuaire de Port-Cros, qui est connu dans le monde entier maintenant. Et là, vous avez le sanctuaire Pélagos.
Ouais.
On travaille dessus, d'ailleurs, avec Smilo, en finant des choses avec la Fondation
Bernard sur le sanctuaire Pélagos. Aux personnes qui sont là, si tout le monde ne connaît pas Pélagos, c'est une sorte de grand triangle qui va, je crois, de Gênes...
Plus bas,
ça va.
La Spezia.
La Sardaigne.
Voilà, Spezia, la Sardaigne, et puis ici,
la Corse.
Voilà, presqu'île de Gien. Donc, ce grand périmètre, normalement, est un espace de préservation des grands mammifères marins. Voilà, bien sûr, alors, il peut y avoir des accidents avec quelques bateaux, mais en fait, normalement, c'est un espace sanctuarisé.
Oui, mais il y a des gens ici qui ont travaillé pour que ça n'arrive plus.
Voilà, Fred notamment.
Bon, je voulais revenir sur la. Il y en a une réserve naturelle qui était une réserve naturelle volontaire.
Ouais.
Actuellement, elle n'est plus rien du tout, elle n'est qu'une réserve naturelle des arbousiers. J'ai essayé dans le temps de la faire classer réserve naturelle régionale, qui aurait été quand même pas mal d'avoir quelques subsides, mais ça devait passer à l'Assemblée générale des propriétaires, qui ont refusé ce classement de peur qu'on prenne le bien de leur bien. Quoi. Ça, c'était il y a une douzaine d'années quand même.
Donc,
ce serait peut-être intéressant d'essayer
Ouais, puis la maire de hier a pris des responsabilités aussi au niveau de.
C'est la présidente du parc national.
C'est la présidente du parc national. Donc, on a une tendance forte à dire les îles d'Or peuvent aussi récupérer ce qu'il y a de bien de ce parc national. On attend les prochains rendez-vous avec elle. Il faut trouver. Toute la difficulté aujourd'hui, c'est de trouver le bon équilibre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire avec. On a les obligations légales de débroussaillage, c'est-à-dire ce qu'on appelle les OLD pour les initiés. Si vous prenez le règlement des OLD au Levant, il n'y a plus un arbre nulle part.
Oui,
vous coupez tout. Vous coupez tout. Donc l'OLD, ça veut dire une maison, 50 mètres autour, et bientôt, c'est le préfet qui va le faire passer du Var, ça va passer à 100 mètres. Une maison 100 mètres autour.
Ils ont un tout petit peu modéré, tu as le droit de laisser des haies. Je sais parce que moi, donc je suis à Porquerolles, je suis à l'est de l'île. Donc je suis
vous avez le même problème.
J'ai 52 hectares en gestion. Bois et forêt, un peu de terre agricole. ils sont venus comme dans tout Porquerolles, ils nous ont tous allumés, y compris le parc national.
Ouais.
Y compris le parc national qui ne respectait pas les OLD. Et donc, je les ai rappelés, je leur ai dit, si je fais ce que vous me demandez, je rase tout. Je dis, je veux bien enlever des pins, parce que bon, c'est des allumettes, mais franchement, enlever les chênes verts, madame, ça me fait mal au cœur.
Maxime, en plus, je ne comprends pas, parce que quand on enlève, partout, il y a des déserts en Afrique et tout ça, ils disent qu'il faut replanter pour justement nourrir la terre, etc.
Mais là, c'est pour l'incendie. Non, mais là, c'est pour l'incendie.
Non, si tu coupes les arbres, le vent, surtout chez nous, et les intempéries, ça va enlever toutes les herbes, ça va faire carrément le désert.
Quand je regarde là, juste ce qu'on a devant nous, là, je peux vous dire que les OLD, ils sont pas.
Ils viennent dans 10 jours là. Ils reviennent dans 10 jours.
Ça va être compliqué. Hein.
Ils reviennent dans 10 jours. Mais
est-ce qu'il n'y a pas justement Lionel, une spécificité levantine, avec tu disais un territoire, un relief qui est particulier et qui peut permettre justement d'aménager quand même ces contraintes qui sont hyper lourdes.
Si tu as une dérogation, il faut toujours voir un côté et l'autre, parce que tu peux obtenir d'une contrainte que tu vas chercher, si tu veux,
assoupir.
Si tu as une contrainte d'OLD, tu dis, mais ça ne peut pas marcher au Levant. C'est un village jardin, etc. On ne va pas raser tous les arbres, etc. D'un autre côté, tu dis, c'est une raison de plus pour avoir un système et un plan incendie, d'autant plus
avancé. Les deux sont liés.
Chercher les
subventions. Les deux sont liés. Et le travail qu'on fait sur les OLD sur le Levant, est un travail où on est accompagné par l'ONF. C'est l'Office national des forêts. En fait, quand l'équipe liée à l'OLD des contrôles sur le Levant se déplace toujours avec un agent de l'ONF. Et en fait, les agents de l'ONF sont très sensibles à ce Levant et effectivement, on ne demande pas de respecter au pied de la lettre l'OLD. Sinon, on n'aurait plus rien. Par contre, sont plutôt de bons conseils en disant le pain qui colle à la maison...
Pas d'arbres, pas d'arbres en moins de 3 mètres.
Il faut les enlever. Et puis toute la végétation en dessous d'un mètre 50, vous l'enlevez parce qu'en fait, un feu.
Il faut laisser 3 mètres entre les houppiers.
Donc il y a, entre parenthèses,
l'ONF, ils ont une maison que le parc leur concède à Porquerolles parce qu'ils font souvent des interventions. Sur les OLD, ils se sont fait eux-mêmes allumer.
Et quand on regarde les images, quand on regarde les photos de l'époque, les films de l'époque du Levant. Alors en fait, ce qui m'a surpris la première fois, c'est de voir le peu de végétation par rapport aujourd'hui.
Mais pourquoi le Levant a brûlé en 54, je crois.
Je parle
des années 30. Et en fait, on se le rappelait avec Frédéric Gaud aussi la fois dernière, en fait, au départ, les Levantins entretenaient le domaine eux-mêmes. C'est-à-dire que tout le monde entretenait le domaine. Tous les propriétaires. Comment ?
Je ne crois pas que ce soit qu'on coupait les arbres. Je pense qu'il y avait plus de sécheresse, les arbres ont grandi moins
susceptibles.
Le maquis était beaucoup plus bas.
Oui, mais on ne laissait pas monter les arbres aussi haut. Tu regardes les photos et les films de l'époque, c'était un peu différent. Non, mais aujourd'hui, de toute façon, on est sous contrainte. Aujourd'hui, on a des terrains sur le Levant qui sont laissés à l'abandon parce que les différentes générations ont bougé, changé. Ce n'est pas entretenu. Donc, on doit se poser la question, effectivement. Départ d'incendie, avec le vent qui va bien. Je peux vous dire qu'on a fait tout un travail avec les pompiers. On n'a pas de temps à perdre pour réagir. Ça, je peux vous le dire. Donc, c'est un vrai sujet.
Tu enlèves la moitié de la biodiversité. Il y a ça aussi.
On n'a pas dit qu'on coupait les arbres.
Mais
on n'a pas dit qu'on coupait les arbres. Mais entre couper les arbres et trouver le bon équilibre avec ça, c'est vraiment le sujet.
Attention, c'est que ces questions d'équilibre, ça s'entretient l'équilibre. Il ne suffit pas de faire une fois si tu veux, tu vas enlever un arbre sur trois, hein, tu vas éclaircir.
Non, faire attention, il y a des arbres.
Non, mais ça veut dire que tous les ans, tu interviens.
Des arbres qui sont inflammables et d'autres pas.
Des arbres pas inflammables, ça n'existe pas. Des arbres plus inflammables comme les pins, oui, c'est sûr.
Il y a des arbres, un cyprès, c'est une bombe.
Mais
sur le continent, on est très près d'une forêt et on est soumis aussi à cette obligation de déprocéder. Donc on l'a fait, on ne peut pas respecter à la lettre ce que tu disais, sinon il n'y a plus rien. Donc après 2-3 ans de ça, il y a eu un très grand incendie. Il a fallu s'arrêter à 500 mètres de chez nous. Et je peux vous dire un truc, c'est que ça vous sensibilise.
Oui.
Ah ouais.
Et moi, ça s'est arrêté à 40 mètres de la maison. Pourtant, en 71, j'étais tout petit.
Et il faut savoir aussi que donc, l'obligation de débroussaillement, elle est surtout, il faut surtout la voir comme protection du bâti et des personnes,
oui,
là, il est bien.
Oui.
Et en fait, c'est 50 mètres autour de l'habitation. C'est-à-dire, en fait, si tu as une maison qui est là, tu es obligé de débroussailler à côté. Et si le terrain est seul, sans habitation à 50 mètres, tu peux le laisser comme ça. Sauf qu'ici, au Levant, on sait très bien que on connaît les terrains, parce qu'on a fait la cartographie complète, on connaît très bien les terrains, mais absolument pas entretenus. On a un vrai sujet, quoi. Et là, il n'y a pas l'OLD.
Je voudrais revenir. Il y a l'ONF qui nous pousse. On a des menaces d'amende.
Je voudrais revenir sur le. Tout à l'heure, on parlait d'un million de bouteilles plastiques. Ouais. Tu nous as donné l'exemple d'une île qui s'appelle Tilos. Grèce, oui. Qui est la première île certifiée zéro déchet au monde. C'est-à-dire qu'elle a opéré une révolution en seulement 2 ans. 97% des déchets traités sur place, une petite île, hein, et 100% d'énergie renouvelable avec limitation de la pression touristique. En fait, ils ont dit, comme un peu tu l'as dit tout à l'heure, on fait un numerus clausus, on bloque, on n'y aura pas plus de monde sur notre caillou parce qu'on n'a pas les ressources pour. Et c'est normal, on ne peut pas faire une course folle aux ressources. Est-ce que justement sur la question des déchets, retraitement, il y a le plastique, mais il y a tout le reste. On parlait aussi des eaux usées, finalement, qui vont et qui nourrissent les jardins. Donc si les jardins sont aussi verts, c'est aussi le cas. Mais globalement sur les déchets, est-ce qu'on n'a pas des actions à mettre vraiment en œuvre où on pourrait devenir plus exemplaire, parce que finalement,
on a ouvert depuis un an, bon, j'ai un représentant du conseil ici, on a ouvert beaucoup de sujets depuis un an. Le sujet des déchets est pour moi un vrai sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, j'en parlais avec les Bibi, j'en parlais avec le bazar, on doit être capable d'avoir par exemple des compacteurs de carton, donc pour faire des balles de carton qui sont recyclées après derrière. On doit être capable de récupérer toutes nos bouteilles plastiques, les broyer, il existe des machines à broyer.
C'est une sorte de poudre, là.
Oui, le verre, même chose. Il y a des îles, effectivement, ils rebroient le verre redevient une espèce de poudre, donc de sable, qu'on remet sur les corniges, qu'on peut remettre ailleurs. Donc, en fait, il y a une spirale
virtuelle.
Il y a une spirale virtueuse.
Je peux expliquer.
Le compostage
sur les déchets alimentaires à Porquerolles.
Nourrir les sangliers.
Ils viennent se nourrir.
Voilà. Avec Smilon, on a fini de lancer l'opération biodéchets, donc ça fait 3 ans. Donc on a fait faire une étude, sachant qu'au 1er janvier 2024, les restaurateurs notamment sont obligés de valoriser leurs biodéchets. Bon, biodéchets, c'est épluchures de légumes, de carottes, de machin, mais aussi les viandes et les poissons. Donc ils sont obligés de le faire. Donc on a saisi l'occasion, on a fait faire une étude pour un bureau d'études qu'on a sélectionné après un appel à candidature d'ailleurs. Donc c'est une grosse étude, hein, je pourrais te la présenter, ça fait 80 pages. Et il y a des process qu'ont identifié les auteurs de l'étude. Et à partir de ça, on a financé une plateforme de traitement des biodéchets et ensuite le ramassage des biodéchets avec la petite entreprise phare de Eli Chopard.
Mais après, comment ça se passe,
c'est pas aussi simple administrativement que ça. Il a fallu trouver le lieu, il a fallu que le parc national accorde une AOT sur le lieu pour que les biodéchets. Il a fallu mettre dans le coup, surtout MTPM, on a été 12 fois MTPM au service environnement développement durable, parce qu'il y a Christine Maurice qui est une femme formidable, je dis comme je pense, et avec le service déchets, et ensuite inscrire l'opération biodéchets dans le nouveau contrat de traitement des déchets avec Veolia, la municipalité, MTP.
Et quand tu dis valoriser, c'est quoi par exemple?
Compost. L'année dernière, on a traité à Porquerolles, ils ont récolté 40 tonnes de biodéchets en un été, 40 tonnes, et ça, c'est à terme, on va intégrer les mares de raisin des viticulteurs et des déchets verts. Pour l'instant, il n'y a que c'est que.
Alors, ça, c'est quelque chose qu'on fait quand même déjà beaucoup en fait, individuellement, les particuliers le font.
On fait du compost.
On parle des restaurants. Ils ont l'obligation de ça. 2024, c'est obligé normalement.
Avec ça, si tu veux, on fait du compost. Les calculs du bureau d'études, c'est que quand on aura intégré des mares de raisin, du déchet vert, voire les bouts des lagunes, mais là, il y a un problème réglementaire, je ne sais pas si les détails. On pourrait arriver à couvrir 60 à 70% des besoins en engrais des viticulteurs de l'île du parc national, sachant qu'il y a 100 hectares de culture à Porquerolles. C'est pas mal. Mais ce que j'ai vu, tu parlais de Tilos, c'est que à Tilos, ils ont ça, mais c'est une petite portion de ce qu'ils font au total. Parce qu'ils ont un centre de recyclage qu'ils ont créé, ils ont trouvé des fonds européens. J'y suis allé, j'y étais il y a 15 jours. Donc ils recyclent à peu près 95% de leurs déchets. Qui valorisent sur place le verre, le plastique, les biodéchets, etc. Et effectivement, c'est la première île certifiée zéro déchet. Et ils ont 4 étoiles et ils visent la 5e ce sera, c'est ce qu'ils m'ont dit.
Donc ça, c'est un vrai, c'est un objectif,
c'est un vrai axe.
Si tu veux avoir vraiment quelque chose qui passe pas, c'est bien ça.
Oui, oui, bien sûr.
Et justement, tu disais, donc, ce fonds de dotation, c'est aussi un outil, un levier, justement, comme tu disais, pour aussi aller chercher peut-être des crédits européens, des crédits, il y a le fonds vert.
Pour financer. C'est là où je voulais en venir.
Voilà, il y a quelque chose qui s'appelle le fonds vert.
Attention au fonds vert, parce qu'en gros, il a été diminué de moitié d'une année sur l'autre. Donc, je t'en ai parlé l'année dernière, mais bon, d'accord. Là, entre-temps, le fonds vert...
Que le fonds vert, c'est pour accélérer la transition écologique
l'État est un peu endetté
dans les territoires. Mais bon. Mais donc, justement, l'idée, c'est d'aller chercher, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous, on est 250 copropriétaires, on n'a pas des millions. Donc, finalement, essayer d'aborder un nouveau siècle... on en a déjà fait, on a déjà fait 100 ans, là, quasiment, bientôt, on a essayé de sauver ce qu'on pouvait et de le transmettre. Comment on peut aborder, finalement, le centenaire prochain et essayer, justement, de pérenniser notre caillou?
On s'était fait, en fait, quand on a travaillé il y a un an sur la feuille de route liée au départ, on pensait une fondation. On est revenu sur un fonds de dotation, ça, c'est très technique, mais... qui est depuis la semaine dernière validé par Bercy. Donc on a depuis une semaine l'autorisation, agrément, pour pouvoir effectivement faire les reçus libératoires pour les voilà pour enlever les voilà.
Donc c'est recueillir des fonds individuels ou d'entreprises ou d'autres fondations
et surtout permettre avec ces fonds de cofinancer certaines choses. Donc on s'était dit la première chose à cofinancer chez pour nous, c'était le réseau incendie parce que tant qu'on n'a pas en place un réseau incendie sur le Levant, on est à risque maximum. On s'était mis en tête aussi de redonner naissance au Levant à une école. Alors ça, c'est une petite lumière que j'ai, c'est de se dire à un moment donné, pourquoi on ne ferait pas revenir des familles, des enfants au Levant pour redonner effectivement une vie différente. Et la première chose, le premier stop qu'on m'a donné, parce que je me suis mis en relation avec l'éducation nationale, c'est de dire, attendez, la salle de classe, on l'avait historiquement bureau de la mairie ou en bas du bureau de la mairie, où se trouve votre bouche d'incendie la plus proche, est-ce qu'elle est à moins de 30 mètres? Je dis, non, on n'a pas de bouche d'incendie, bien, no way, donc laissez tomber. Donc en fait, on démarre par ça. Donc l'idée, c'était de monter un fonds de dotation, dans un premier temps, pour cofinancer ce réseau incendie, en profiter pour, en même temps, ouvrir les corniches et mettre le réseau de distribution. Et puis derrière, effectivement, on a plein d'autres idées, c'est-à-dire qu'il nous manque sur le Levant une maison des citoyens, travailler sur des projets de biodiversité, mais en termes de laboratoire, c'est-à-dire se dire, on fait un essai pendant 2 ans, 3 ans sur un endroit précis, si ça marche, effectivement, on est capable de dupliquer. Mais on y va vraiment par étapes. Et ce fonds de dotation, c'est juste un outil à disposition des Levantins et de cette ASL qui décidera effectivement des projets qu'on va faire. Donc c'est un travail d'un an. On doit effectivement rapidement avoir ce réseau incendie. On a monté un CCFF, donc un comité communal feu et forêt, avec 12 volontaires, donc tous habitants du Levant propriétaires, 12 volontaires. Le plus jeune a 15 ans, le plus âgé, je tairai son âge, mais entre 50 et 90 ans. Bonne équipe qui a tourné en binôme pendant tout l'été, en prévention incendie. Donc sur les fumeurs, sur les corniches, sur différents endroits, ça a plutôt bien fonctionné. Et ça nous permet de mettre une première étape à cette préservation du Levant à travers ce CCFF. Et donc ce fonds de dotation qui donnerait naissance à effectivement ce réseau incendie sur lequel on travaille avec les pompiers. Donc on attend... Pour être très clair, on attend prochainement une étude très précise des pompiers de hier qui doivent revenir sur le Levant pour savoir combien de bouches, à quel endroit, etc. Derrière, avoir un chiffrage précis, faire passer ce chiffrage en assemblée générale extraordinaire auprès des Levantins pour avoir un accord de principe pour dépenser l'argent recueilli. Et pour l'instant, les premières intentions de ce fonds de dotation nous font un engagement sur 3 ans. On avait mis une jauge aux alentours des 300 000 euros. Je pense qu'on sera plus proche des 500 000 euros. Mais ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on a vraiment un engouement d'accompagnement des Levantins. Et en fait, une enveloppe de 500 000 sur 3 ans nous permet d'aller chercher une enveloppe de 500 000 à la région, une enveloppe de 500 000 à la métropole. Et on a d'autres possibilités derrière, mais parce que ça coûte de l'argent.
500 000 de la métropole,
sur 3 ans.
Sur 3 ans. Mais c'est bien. Tu me montreras le chèque. Je connais la métropole, la région aussi, mais la région, j'aurais moins de doutes. Mais la métropole, c'est bon.
Mais est-ce que justement aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sur la question écologique, le changement climatique, etc., est-ce que c'est qu'on ne peut pas vendre, entre guillemets, le fait de dire à des institutionnels que le Levant peut devenir un truc fou, tu vois, un sanctuaire écologique ou une sorte de terre un peu préservée parce qu'elle n'a pas les mêmes contraintes que le continent, parce qu'on a une histoire spécifique, on n'a pas de trafic automobile, etc. On n'a pas de lumière le soir, ce qu'on apprécie et ce qu'on veut garder. Est-ce que tous ces éléments-là ne font pas qu'on peut vendre une sorte d'utopie environnementale aux institutionnels et finalement qui nous aide qui fasse une sorte, tu parlais de laboratoire tout à l'heure.
Une utopie réalisée, si je peux te reprendre, parce que tu as rapidement évoqué la question des fonds européens, j'allais dire d'autant plus maintenant à partir de cette année, parce que tu avais, on en avait parlé au téléphone, ouais. L'article 174 du traité de Lisbonne qui redonnait la spécificité, une spécificité en Europe des petites îles. Bon, les Corses s'en sont pas mal servis. Mais là, il y a un degré de plus qui a été franchi cette année, que la Commission européenne a publié pour la première fois sa stratégie pour les petites îles. Donc, sur toute l'Europe, hein, Norvège aussi. Donc, on peut s'appuyer là-dessus pour faire valoir des expérimentations, des idées de l'île laboratoire, d'utopie réalisée, tout ce que tu veux, etc., mais qui ont besoin de financement. Et la deuxième chose que moi, je me permets de dire, c'est l'expérience de Smilo. Quand on est une île, aussi singulier soit-on sur son île, il ne faut pas être seul. Il faut y aller en groupe. Ouais. Je veux dire, nous, on monte des projets, il y a minimum 3 îles, parfois il y en a 15. Là, on est en train d'en monter un, justement, sur la question de l'infiltration des eaux de pluie à Porquerolles, où il faut faire une étude. Donc, on monte un projet pour arriver à décrocher ces fonds européens. On monte un projet parce qu'on est en relation avec eux et qu'on sait qu'ils ont aussi de besoins, avec une île croate, c'est Vis, et avec une île grecque, c'est Kralki. Donc, pour arriver, si vous voulez, sur notre local, à faire quelque chose avec les fonds européens, on doit travailler avec les autres. Mais comme on travaille avec les autres, on apprend des choses d'eux, justement. Et donc, l'échange d'expérience, franchement, c'est ce que j'ai appris aussi à Smilo, c'est essentiel. Je veux dire, on a transféré, bon, ça peut être le corail. On a des champions de la restauration de corail en Indonésie, sur une île qui s'appelle Mansuar. Les Tanzaniens, les deux îles tanzaniennes qui sont dans ce moment-là, on dit, mais nous, on a une catastrophe, il faudrait qu'on prenne des coraux, parce que, bon, il y a les ancres de bateaux, il y a le blanchiment, etc. Ils sont allés se former là-bas, ils sont allés se former en Indonésie. Ça, c'est un exemple. Le traitement des déchets, il se trouve que l'île de Gorée au Sénégal, franchement, ils ont des solutions simples, mais vachement efficaces. Les gens de l'île de Principe, c'est aussi l'Afrique, on dit, ça nous intéresse, venez nous apprendre comment vous faites. Donc, ça, c'est du point de vue pratique. Mais du point de vue financement, pour obtenir des financements et des financements conséquents et en même temps avoir un pilotage où on n'est pas tout seul, c'est vraiment important d'y aller avec d'autres territoires, avec d'autres îles. Et tout à l'heure, tu me demandais, j'y repensais depuis, qu'est-ce qui pourrait se comparer au Levant? Je pense que rien dans notre réseau ne peut se comparer au Levant, sauf peut-être Capraia, que tu dois connaître. C'est entre l'Elbe et la Corse. C'est à peu près la même superficie.
C'est un rocher.
C'est un rocher. Il se trouve que ça a été un pénitencier jusqu'il y a une partie, il y a 30 ans. Donc il y a toute une partie de l'île qui était interdite. Maintenant, c'est ouvert. Mais l'aspect du village, des problématiques que je connais, on travaille beaucoup avec eux, c'est peut-être ce qui se rapproche le plus du Levant. C'est à 4 ans de bateau.
Les problématiques, elles sont, vous l'avez exprimé, elles sont communes à toutes ces îles. Vous dites, on fait sur quelque chose sur Porquerolles et on prend deux îles, pourquoi pas la nôtre? Pourquoi on mutualise pas le truc? Pourquoi on le fait que sur trois îles? Pourquoi pas sur l'ensemble de toutes ces îles?
C'est ce qu'on fait, justement. Sauf que c'est pas la même chose. Là.
J'ai l'impression qu'on réinvente le monde. Il y a des choses qui ont été faites, vous l'avez bien exprimé. Donc on doit pouvoir se servir de ces idées-là pour faire des raccourcis. Pourquoi réinventer les choses alors que ça a été fait sur telle île, à tel endroit, à telle manière, que ce soit pour l'eau, pour l'écologie, pour tout ça?
S'il y a un exemple probant de solution trouvée et réalisée sur une île, on le prend, hein, ça c'est sûr. Maintenant, ce que je vous dis...
Mais comment le mettre en œuvre ici?
Quand vous avez financé?
Donc on revient, donc, et ce n'est que du pur financement.
Mais c'est pas donc, du pur financement, il y a de la recherche aussi. Il y a des études, il y a de la recherche dans tout ça. Généralement, dans les programmes européens, c'est pas uniquement « je vais vous donner 3 euros pour changer votre bouton de porte hein. ». C'est « la porte, elle marche comment ? Et si on changeait aussi la porte ? Non, alors on change pas la porte. Mais peut-être on va trouver un autre système pour l'ouvrir. Ça se passe pas, je veux dire, c'est…
Ok, mais ils ont eu des financements. Ou ils ne les ont pas eu, ou ils les ont
trouvés. Qui a eu des financements?
Je sais pas, les îles qui ont mis oui, des choses en œuvre.
Bien sûr.
Donc on doit pouvoir se servir de ces études, de ces idées, pour pouvoir avoir des raccourcis, pour pouvoir aller beaucoup plus vite que de réinventer encore une fois la chose.
Si vous avez des financements et que vous y arrivez sans passer par des fonds européens, des fonds régionaux, des fonds métropolitains, ça je dis pour moi, ou le fonds vert, bravo. Si le fonds de dotation arrive à tout financer lui-même, super. Mais à mon avis, l'un des objectifs de Lionel, c'est aussi de décrocher des financements,
bien sûr, c'est quoi, financement.
Dont les financements européens.
Mais justement, Lionel, c'est peut-être aussi, est-ce qu'il n'y a pas intérêt à ce que le Levant se rapproche aussi, travaille peut-être plus étroitement avec Smilo demain? Il y a eu, donc tu évoquais tout à l'heure au début, déjà une première expérience qui avait été très concluante. Aujourd'hui, on en bénéficie, on continue à en bénéficier. Est-ce que demain, ce n'est pas justement de travailler, de bénéficier encore plus de cette expérience?
On échange à plusieurs reprises avec Maxime. Et d'ailleurs, c'est une des premières personnes avec qui on a fait une visio avec Sacha à l'époque, quand on a démarré le projet pour apprendre un peu, pour avoir ce retour d'expérience. En fait, c'est Christophe Chevalier qui m'avait parlé effectivement du travail de fond qui avait été fait à l'époque, et donc je m'étais permis d'appeler Maxime, on avait fait un premier échange. Une fois, on avançait là-dessus, le temps de la construction, de la mise en place du fonds de dotation, ça a pris du temps quand même, parce que c'est quand même un dossier plutôt costaud, mais on l'a fait sur moins d'un an, donc on a abouti. On a la chance d'avoir parmi nous notre secrétaire, qui est Catherine, qui est là-bas au bout, qui œuvre avec moi et dans ce fonds de dotation. Oui.
Mais est-ce que c'est pas justement de devenir, est-ce que, moi je vois ça un peu naïvement, mais de devenir une des, peut-être la 61e mille Smilo, et de bénéficier peut-être, comme tu le disais, peut-être encore plus de ce...
Laurette, elle sait. Je vais être obligé de faire un peu l'historique. Honnêtement, il se trouve que Fabrice Bernard, qui a eu l'idée de Smilo pour le conservateur du littoral, il a trouvé le cas du Levant, mais formidable.
Parce que finalement, on énumère quand
oui, mais
on a tout qui est historique.
Il y a un petit historique, c'est qu'on a formé le comité insulaire du Levant. Il y a une première réunion en mairie d'hier, d'ailleurs.
Quelle année?
2018. Ça s'est mal passé avec la DGA du fait des deux élus.
La DGA, Direction Générale de l'Armement, donc la partie qui administre le...
Et ensuite, vous avez eu des présidents successifs, enfin deux, je crois, avec qui on est revenu faire des présentations de Smilo, y compris devant le CIL, enfin, etc. Bon, on a senti qu'on ne peut pas... Le Levant est dans le réseau Smilo, et pas dans la demande de labellisation. On a deux niveaux, le réseau Smilo et le label. Si vous rentrez dans le processus label, à ce moment-là, c'est là qu'on cherche des fonds, etc., pour faire progresser et atteindre le label. Bon. Mais comme Porcro, d'ailleurs, Porcro est dans le niveau réseau. Donc ça s'est arrêté, on va dire, en cours de route, rien n'empêche de recommencer. Mais, je vous le dis, comme j'avais dit à l'époque, on ne peut pas labelliser une partie du niveau. Il faut mettre la DGA dans le coup. Pour moi, c'est pas compliqué parce qu'avec les inventaires du parc national, ils font tous les ans et ça se passe bien avec eux. En gros, ça nous suffit. Quoi. En plus, ils font une step. Malheureusement, ils veulent pas pour l'instant vous en faire bénéficier. Ça changera peut-être grâce à vous. Mais ils font une step d'un côté, une usine de dessalement. Pour nous, ça nous va très bien.
Parce que ça peut être un accélérateur.
C'est des points positifs.
Bien sûr. Mais on est passé du.
Si il y en a un frein d'un côté et un accélérateur de l'autre.
Non, mais jusqu'à maintenant, on n'avait pas d'écoute côté mairie. Jusqu'à maintenant, il y avait peu de discussions avec la DGA qui restait très, très ferme et très obtuse sur ses positions. La municipalité a changé, on a un discours qui est complètement différent. On parle de laboratoire, on parle d'une richesse particulière, on fait partie des îles d'or et le Levant a sa particularité qui a sensibilisé la nouvelle équipe en place. Et puis la DGA commence à se détendre un peu parce que sous pression, gentille, mais sous pression de la mairie, des élus sous pression de la préfecture, parce que ça reste quand même une partie d'argent public qui va être déversé sur cette partie de l'île. Et puis on vit tous au même endroit, quoi. C'est notre île. Donc le Levant, c'est pas le Levant DGA et le Levant Héliopolis, c'est le Levant.
Non, puis demain, ça sort dans la presse, initialement, pour en bénéficier. Enfin, dire ça, c'est la formale aussi mais pour la DGA.
Puis on a déjà aujourd'hui un travail. Je vais prendre un exemple, un travail en commun.
Il ne s'agit pas de mettre en compte la DGA dans son principe. Hein, moi, c'est pas, pas du tout.
Non, mais s'ils n'ont pas besoin de l'eau, qu'ils jettent l'eau en juillet-août, alors que nous, on en a besoin, c'est quand même, d'un point de vue écologique, c'est pas très sain, quoi.
Christophe Chavelier, un jour en pleine réunion du CESS, je ne sais pas si tu te souviens, avait dit qu'il faudrait quand même s'interroger sur la logique de l'État qui, la même année, en 1963, crée le parc classé de Porcro et à 500 mètres de là, ferme l'île du Léman pour la consacrer à des essais de missiles. Et tout le monde s'est regardé là. Tiens, c'est marrant, on n'y avait pas pensé.
Bon. Voilà, ben, je pense qu'on a, on a un peu abordé les différents points. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans, qui viennent justement autour ou avec votre vision, peut-être pour certains de vacanciers, peut-être des choses qui vous ont sauté aux yeux. Ou, oui.
Au début de ton introduction, tu parlais de la mise en danger du naturisme, je crois.
Alors, on a parlé un petit peu de naturisme. L'objectif, là, c'est vraiment de parler de naturisme et environnement, donc. En quoi, justement, mais peut-être on peut boucler là-dessus, justement, en quoi le naturisme peut-être, en le réaffirmant, ici, on essaye, le Levant naturiste essaye de travailler à sa façon sur, justement, le fait de redire, d'affirmer, que réaffirmer et de faire vivre ce naturisme au Levant, au quotidien et dans la pratique et à travers toutes ces dimensions. Est-ce que, justement, le fait que notre particularité, c'est quand même une petite île, mais une petite île, enfin une partie Héliopolis naturiste, je pense que c'est le seul que vous ayez dans ce cas-là, enfin, avec qui vous avez collaboré jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que justement pour vous, vous le voyez comme un atout ou comme une faiblesse dans justement ce combat, puisque finalement c'est un peu un combat qu'il va falloir mener quand même, défendre notre cause, créer des projets, monter des projets et les faire aboutir.
Alors, sur le... Parce que
hier, c'était plus un frein.
Oui, alors, c'est toute la difficulté du fonds de dotation et de la communication qu'on fait à travers le fonds de dotation. C'est-à-dire qu'on se rapproche de certaines entreprises qui peuvent abonder au fonds de dotation avec une exonération de 60% sur leur résultat. Alors, sur des PMI, PME, quand c'est à titre perso, ça ne pose pas de problème. Sur des groupes un peu plus importants, quand on annonce au comité de direction, au directoire, qu'on va mettre X somme pour l'île du Levant, pour la fondation, le fonds de dotation de l'île du Levant, qui est une île naturiste, ça peut effectivement poser la question autour de table. Donc on a une communication qui s'adapte en fonction des interlocuteurs. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, quand on communique sur le... Et d'ailleurs, on a un site sur le fonds de dotation de l'île du Levant, on revendique le côté naturiste du Levant. Et on dit à chaque propriétaire venant acheter une maison, vous êtes en conscience, vous achetez en conscience à l'île du Levant dans une île naturiste.
Donc, il n'y a pas de remise en cause de ce
côté-là. Non, mais c'est faux.
On ne parle pas de remise en cause.
Non, mais on fait en sorte de préserver cette communication-là. Non,
mais c'est, comment en faire un atout?
On en fait un atout par notre particularité, par nos antécédents. Ça fait bientôt 100 ans que...
Oui, mais au-delà, si tu veux, du Levant, des murs du Levant, c'est, je pense notamment pour les questions de financement, de subvention, etc. Je dis, bon, naturistes sont les premiers à défendre la nature, c'est aussi,
mais c'est
aussi,
ça,
aussi bête que ça.
Être donc, naturiste, c'est ça.
Être naturiste, c'est contribuer à la préservation et la conservation de la nature,
oui.
Et donc être pilote.
Parce que
il ne faut pas se leurrer, ça peut aussi être un blocage, ça peut aussi être mal.
Mais après, le naturisme, c'est plus une philosophie qu'un.
Oui,
c'est
plus une philosophie. Dans l'inconscient collectif.
En fait, on adapte. Moi, j'adapte la communication, le discours, je l'adapte effectivement en fonction des interlocuteurs. Donc, la communication qu'on peut faire à travers des mails ou à travers des réunions que je peux avoir avec telle ou telle personne, effectivement, on explique qu'on est capable d'adapter notre communication en fonction d'eux. La seule chose qui nous intéresse aujourd'hui, c'est récupérer des fonds pour pouvoir. Ben, je vais continuer notre projet global. Et le projet, c'est effectivement préserver
mais, l'île. Mais parce que, on pourra peut-être boucler là-dessus, mais justement, et ça, je reviens sur cet article premier des Durville qu'on a vu tout à l'heure en ouverture, c'est aujourd'hui, je pense, c'est une vraie force d'avoir ici, de vivre une communauté naturiste qui vit avec ce principe de respect de l'environnement, respect de l'autre, respect de celui que l'on croise, et respect plus global de notre environnement, donc du lieu dans lequel on vit, qu'on oublie souvent un petit peu sur le continent, parce que souvent, il est quand même pas mal abîmé, et on voit aujourd'hui les conséquences. Donc, c'est quand même, je pense, très vendeur pour, quand on va vendre un projet, de dire, finalement, notre philosophie, c'est le respect de l'environnement, c'est aussi cette sobriété dont tu parlais, parce qu'elle est contrainte, on l'a choisie, et on vit avec.
Et finalement, on est vachement pilote et précurseur par rapport à ce que le continent va vivre et va devoir vivre dans les prochaines décennies. Donc, finalement, on est en avance sur les
sujets. Plus on ira justement vers une attitude écologique, de préservation de la nature, en faisant attention justement à nos déchets, travailler sur les biodéchets, travailler justement comme elle fait cette île exceptionnelle qui arrive à vivre à zéro déchet, je trouve ça extraordinaire. Ça, c'est...
Zéro déchet, 100% d'autonomie énergétique.
Et 100%, ah, bon, 100% d'autonomie énergétique, ça je ne sais pas, mais en tout cas, rester sur zéro déchet et développer ça, développer la préservation de la nature, développer...
Le revendiquer.
Voilà, mais il faut, je veux dire, ce n'est pas suffisant. À Porquerolles, avec les lagunages et tout ça, ils ont en plus un antécédent, vous êtes bien avancé avec les lagunages à Porquerolles. Hein.
Oui, surtout que c'est en train de
faire des travaux. Il y a de quoi le faire, hein, côté EGAD, moi j'en ai déjà parlé à Lionel, oui, côté EGAD, il y a derrière le grillage, il y a plein de plats, on va dire, de terrains plats, où on pourrait faire du lagunage en terrasse. En cascade. Hein. Donc, en faisant des choses comme ça, justement, ça permettrait de parler du Levant autrement que du nudisme, parce que nous, ce n'est pas que le nudisme, mais c'est tout le reste. Mais pour que tout le reste ait un poids, il faut quand même
la philosophie naturiste, le naturisme, justement, peut être le dénominateur commun et la clé de ça.
Mais le naturisme, c'est tout. C'est pas le nudisme.
Oui, c'est ce que je te dis. C'est pour ça que je te parle de naturisme. C'est pour ça que je te parle de naturisme.
L'expo au Mucem sur le naturisme.
Oui.
Il y avait des scientifiques à Paris qui se sont réunis. Ils ont dit on va faire le combat pour mettre le naturisme dans le patrimoine UNESCO. Est-ce que vous avez entendu de ça?
Moi, non.
C'est de protéger le naturisme dans la liste du patrimoine de l'UNESCO. Mm-hmm. Par exemple, il y a 6 mois, le yodel suisse.
C'est patrimoine non matériel ou matériel?
Immatériel. C'est pas une ville, c'est pas un village, c'est l'idée du naturisme.
Oui, oui, oui.
Et ça va renforcer Héliopolis.
Moi, je me souviens déjà à notre niveau local, au moment où on a fait la charte du parc national, Lucien Fourneau m'a écrit
qui était un ancien président
du
syndic, quoi.
M'a écrit plusieurs fois pour faire.
Parle de Philippe Fourneau.
Pourquoi
mais
j'ai
ça, c'est un lieu géographique.
Oui.
Le naturisme, c'est mondial.
Immatériel.
Il tenait absolument à ce qu'on inscrive dans la charte noir sur blanc que le naturisme du Levant était patrimonial.
Voilà.
C'est parti du patrimoine. On l'a fait d'ailleurs. Donc au-delà de ça, maintenant c'est l'UNESCO. Oui.
Donc c'est vrai que, et on conclura peut-être là-dessus, que justement, tu parlais des associations, donc le Levant naturiste en tête aussi. On essaye justement comme aujourd'hui, de parler de naturisme, de prendre conscience que le naturisme, c'est pas que justement d'être nu, nudité souvent occasionnelle et pendant les vacances, parce qu'on a peut-être moins l'occasion de le pratiquer le reste de l'année. C'est vrai que nous, on a cette chance assez incroyable, même si on se met quand même une petite laine d'hiver. Mais c'est justement de se dire, il faut que, on le voit, ça puisse devenir un élément moteur et finalement une singularité qui nous permette de continuer d'aller de l'avant. Et comme tu le disais, on a écrit déjà 100 ans sur ces bases-là. Il faut absolument qu'on puisse continuer de le faire.
C'est quoi la feuille de route?
Voilà.
C'est quoi la feuille de route? On a fait une première étape sur cette première année, maintenant on continue.
Les témoins, Thiennes, ça c'est au lac de Neuchâtel en Suisse, eux c'est du naturisme, c'est détenu, ça c'est bien, mais pas d'alcool, végétarien, et pas fini. Et l'Afrique, et ça c'est vraiment parce que le vient de la santé.
Oui, c'est un aspect. Alors nous on va parler plus de naturisme méridional peut-être.
adaptatif, naturisme adaptatif.
Ouais. Merci à tous pour votre présence.
C'est des bonbons naturistes, quoi.
Ouais. Oui.
Par rapport aux bouteilles, il n'y a pas un système de consigne. Oui,
ça.
Parce qu'il y a du transport.
Ouais. Pour les bouteilles en plastique aussi. Les bouteilles en plastique, en fait, l'idée, c'est de les récupérer pour les broyer, en faire des copeaux, pour les recycler, réussir à les revendre. En fait, ce qui nous coûte cher ici sur le Levant, c'est le transport, d'une façon générale. Je veux dire, faire bouger une palette du port du Levant jusqu'en face ou inversement, ça coûte à peu près 100 balles, peu importe ce qu'il y a dessus. Donc en fait, on est obligé de valoriser tout ça. Donc on est plus, je comprends l'idée, hein, mais on est plus en train de se dire ce qu'on les déchets qu'on produit sur le Levant, comment on peut idéalement les transformer en étant sur place sans les retransporter quelque part. Ou si on les retransporte, c'est qu'ils ont été valorisés. Donc parce qu'on les a mis en poudre, parce qu'on les a mis en pastilles, parce que les cartons, on les a compactés et qu'on transporte une balle de carton compacté qui fait un mètre cube. Le mètre cube sur une palette, c'est le même prix à transporter qu'une batterie de carton sur la même palette. Tu vois, donc c'est un vrai travail. Et en fait, cette spirale virtuose-là, bien sûr qu'on va l'aborder, mais ça, bon, les priorités depuis un an, je le rappelle, hein, c'était le fonds de dotation, c'était la lutte contre l'incendie, c'était le travail sur le dessalement. Là, on lâche pas parce que c'est peut-être un temps un peu plus long. Par contre, derrière, il y a tellement de sujets sur lesquels on doit travailler, mais tellement sur le Levant, qu'on n'est pas prêt de s'ennuyer. Mais on vous tiendra au courant au fur et à mesure, parce qu'en fait, c'est extrêmement motivant. Puis on a eu beaucoup de personnes qui sont venues nous voir. Moi, en disant, tiens, en fait, quand tu ouvriras la boîte de Pandore du traitement des déchets, bah, tu comptes sur moi, parce que moi, j'ai travaillé à tel endroit, j'ai déjà fait ça, etc. Donc, j'ai une liste de personnes capables de venir aussi bosser avec nous.
Il y a une diversité de talents incroyable.
Ah, mais c'est sur le Levant, c'est
extraordinaire. À la fois vacanciers et
résidents. Sur les déchets, il y a Porterol, le frère de Sabine, qui œuvre là-dessus, oui, et c'est bien au point, quand même.
Ouais,
sans aller chercher très loin, hein, notre île sœur, Porterol.
Ouais.
Ils sont dans le lac du Nage, ils commencent à être au point. Le traitement des déchets commence à être au point.
De toute façon, le débat, on va l'ouvrir. Tu sais, quand on a démarré le fonds de dotation, on est parti du sable.
Merci à vous deux. Merci, merci beaucoup, Laurent. Merci, Maxime, d'avoir traversé. Et puis, bonnes vacances pour ceux qui sont ici. Et continuez votre beau séjour au Levant. Continuez d'aimer comme vous le faites notre île, on est très sensible. Merci.
Bon. Et habituellement, je suis en pario. Hein. Je signaler ça, parce que j'arrive à dire le courant du bateau.